Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour, bienvenue dans Europe Midi, votre nouveau rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, il est tout juste midi et demi.
Anne Romanoff sur Europe 1.
La possibilité de se faire dépister à Marseille le week-end, on nous parle de zone rouge, c'est inadmissible, voilà, c'est un scandale. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont aucun moyen, il faut le dire.
Marseille devient le premier foyer épidémique de France. Inquiétude des autorités qui envisagent une fermeture des bars en soirée. Nathalie Chevance est à Marseille. Retour du PSG depuis Lisbonne, la tête basse, Julien Froment sur place. Et avec Jean-François Pérez, question sur les effectifs et le management d'un club qui avait tout misé sur la Ligue des Champions pour en rater la dernière marche. Près de Perpignan, un homme de 50 ans se présente aux gendarmes pour s'accuser du meurtre de ses parents et de ses ex-beaux-parents. 4 morts. Dans 10 minutes, l'invité d'Europe Midi, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Et toutes nos questions sur les mystères du Covid après 3 mois de déconfinement. Pourquoi y a-t-il une nouvelle épidémie de tests positifs et pas une épidémie de malades?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Près de 5000 cas de Covid détectés en France dans les dernières 24 heures, 4897, chiffre en hausse constante, c'était 3600 la veille. Et dans ce tableau, un département émerge, les Bouches-du-Rhône, 123 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée, taux d'incidence le plus élevé de France, plus élevé encore qu'à Paris. Nathalie Chevance, vous êtes devant le CHU du professeur Raoult, où les Marseillais viennent très nombreux se faire tester.
Oui, une longue file d'attente. Les premiers candidats au dépistage sont arrivés à 6h du matin, 4 heures de patience debout dans la rue. Et la plupart ont de bonnes raisons pour subir le test PCR, comme cette jeune mamie.
Parce que la nounou de mon petit-fils est positive. Comme je l'ai gardée un après-midi et que j'ai une mère qui a 83 ans, alors je suis venue ici pour justement le test et le conseil. On est tous là, les labos ils sont pleins. Le premier rendez-vous, c'est samedi prochain. Alors en attendant, je fais quoi ? Parce que je suis contaminée ou contaminable, ou j'en sais rien, il faut que je sache quoi faire.
Car désormais, le délai est en moyenne d'une semaine pour décrocher un rendez-vous en laboratoire, incompréhensible pour ce père de famille.
Impossibilité de se faire dépister à Marseille le week-end. On nous parle de zone rouge, c'est inadmissible, voilà, c'est un scandale. On a essayé de se faire dépister ce week-end, il n'y a aucune urgence qui fait aucun dépistage. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont aucun moyen. Voilà, il faut le savoir, il faut le dire. Et ma fille part à Belgique mercredi, elle a besoin de faire les tests, elle a été malade ce week-end.
Et de plus en plus de cas ces derniers jours, le gouvernement envisagerait donc de fermer les bars après 20 heures, de limiter les déplacements ou les rassemblements de plus de 10 personnes, mesure nécessaire pour cette salariée qui vient aussi se faire tester.
Les gens ont oublié, je crois. Ont oublié ce qui s'est passé en mars-avril. Du coup, il y a eu un relâchement. On l'a vu hier soir sur le Vieux-Port, de toute façon. Donc peut-être que la police devrait intervenir, mettre peut-être un couvre-feu.
Et davantage de police pour inciter à porter le masque en ville, c'est aussi le souhait du côté de la mairie.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Des cas positifs par centaines, mais le plus souvent pas ou peu de symptômes, en tout cas pas de pression hospitalière. On va y revenir avec notre invité, le professeur Fontanet, à la fin de ce journal. Paris perdu, Paris martyrisé par le Bayern. C'est l'heure du retour pour les stars du PSG sous les yeux des quelques supporters parisiens qui avaient fait le déplacement à Lisbonne. Julien Froment, vous êtes sur place.
Oui, pour le moment, c'est le balai des valises et des agents de sécurité. Les joueurs, eux, vont quitter dans quelques minutes l'hôtel où ils auront été confinés pendant 15 jours, à quelques mètres de là. Juste derrière moi, une cinquantaine de personnes, quelques supporters, des curieux, sont venus les remercier une dernière fois. Parmi eux, Thibaut, maillot du PSG sur les épaules.
Oui, c'est important. Donc moi, j'ai fait le déplacement aussi. Bon, j'ai profité de Lisbonne après ces prochains jours, mais j'ai fait aussi le déplacement pour voir le match à Lisbonne, parce que je voulais être au plus près d'eux, en fait, pour ce moment. Pour ce moment très important du club, en plus c'est l'occasion de souffler la 50e bougie, donc c'est important. Partager aussi la déception avec eux et c'est ce sentiment un peu mêlé, quoi, donc être au plus près d'eux.
Les Parisiens décolleront de Lisbonne à 13h45, atterrissage prévu environ à 16h30 à l'aéroport du Bourget. Quelques jours de repos ensuite sont prévus et puis retour à la routine habituelle avec un match de Ligue 1 dès samedi, ce sera contre le RC Lens.
Julien Froment à Lisbonne et maintenant Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Y aura-t-il un avant-après Bayern ? Quelle leçon le PSG pourra-t-il tirer de cet échec ? Que lui manque-t-il pour gravir la dernière marche ?
Bah écoutez, déjà, la direction du club va devoir se poser les bonnes questions pour gravir cette fameuse dernière marche. D'abord, celle de la politique sportive. Neymar et Mbappé sont les têtes de pont de ce PSG global. Ils veulent entrer dans l'histoire, remporter le Ballon d'Or. Mais les deux superstars ont failli hier soir devant le but allemand. Or, il n'y a pas de plan B au PSG. Malgré des investissements colossaux, l'effectif est trop déséquilibré. Et comme un symbole, c'est un Parisien de naissance formé au PSG Kingsley Coman qui a donné la victoire au Bayern. Le PSG ne sait pas retenir ses meilleurs jeunes et c'est un chantier prioritaire pour le directeur sportif Leonardo.
Les autres dirigeants en place sont-ils assurés de conserver leur place ?
Alors on sait que l'émir du Qatar est obsédé par la quête de la Ligue des Champions. Il y a du progrès, mais c'est encore un échec, un de plus. A priori, le président Nasser Al-Khelaifi est protégé par l'imminence de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le projet PSG ne peut pas ralentir, pas encore. Quant à l'entraîneur Thomas Tuchel, c'est plus incertain. Malgré ses succès nationaux et cette première finale de Ligue des Champions, l'Allemand n'est pas intouchable. Ses patrons se montrent très évasifs sur son avenir. Les candidats au poste sont nombreux pour la succession. Enfin, salut au monstre. El Monstro, c'est son surnom, Thiago Silva. 8 ans que le Brésilien porte le maillot parisien. Il symbolise à la fois la force et les limites de ce PSG qui surclasse ses adversaires en France, mais n'arrive pas à conquérir l'Europe. Il a fait ses adieux sans doute hier soir, mais ses dirigeants ne désespéreraient pas. C'est un petit écho de le retenir pour une dernière saison.
Jean-François Pérez, merci. À Paris, autour des Champs-Élysées, les échauffourées ont duré plusieurs heures, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés, 16 policiers blessés. La préfecture annonce ce midi 151 gardes à vue. La droite s'indigne et Marine Le Pen fustige un gouvernement, je cite, incapable d'empêcher ces scènes d'émeutes. Terrible fait divers près de Perpignan, 4 morts, drame familial semble-t-il, et c'est le meurtrier lui-même qui a donné l'alerte, un homme de 50 ans qui s'est rendu à la gendarmerie pour s'accuser du meurtre de ses parents et de ses ex-beaux-parents, Guillaume Bier.
Oui, c'est le genre d'aveu improbable et inattendu. Un dimanche soir, dans la petite brigade de gendarmerie de Poyestre, à une dizaine de kilomètres au sud de Perpignan, un quinquagénaire se présente seul et il annonce froidement aux gendarmes de permanence qu'il a tué 4 personnes. Déclaration brute, spontanée, détaillée. Il livre les identités des victimes, les adresses des crimes. Vérification faite, les gendarmes découvrent effectivement 4 cadavres. D'un côté, à Perpignan, les parents du suspect âgés de 75 et 76 ans. Et à l'opposé, au Boulou, un autre couple, les ex-beaux-parents qui avaient 70 et 71 ans. Quadruple meurtre, commis à la fois à l'arme blanche et au fusil de chasse, d'après nos informations. Quelle explication à cette double tuerie familiale ? C'est la principale inconnue. L'homme qui s'accuse de ces meurtres est interrogé en ce moment même en garde à vue par les enquêteurs de la police judiciaire qui ont repris l'affaire. Un contexte de conflit, rancœur d'après séparation, c'est la piste principale à ce stade pour expliquer ce drame.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Le temps, Anissa Haddadi.
Bonjour Patrick.
Bonjour Anissa, gris dans le nord.
Oui, ça sent un peu l'automne, hein, effectivement. Si vous nous écoutez de la Bretagne aux Hauts-de-France, le ciel est couvert cet après-midi avec sur le nord, les Ardennes et le Cotentin même, des petites averses qui vont se déclencher ailleurs et notamment sur la moitié sud. Et bien là, le soleil est bien présent, c'est une journée estivale. Attention tout de même sur les Alpes du Sud et le Mercantour, nous avons des orages qui vont se déclencher cet après-midi. Le Mistral et la Tramontane soufflent, prudence avec les incendies. Et les températures, elles sont à peine de saison, Patrick. 20 degrés à Brest, 25 à Paris et Clermont-Ferrand, 28 à Nice et 32 la maximale pour Montpellier.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, notre invité Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre du Conseil scientifique, il est en première ligne depuis le début de la crise. Comment interprète-t-il l'évolution de l'épidémie en France ? À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour professeur Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Beaucoup de questions pour vous en cette rentrée, des questions que je n'imaginais pas devoir vous poser ou vous reposer lors de notre dernière rencontre début juillet. On pensait que les choses allaient tranquillement s'évanouir ou s'éloigner. L'épidémie est toujours là. Où en est l'épidémie en France aujourd'hui ? Pourquoi cette hausse continue de cas positifs n'a-t-elle pratiquement pas d'effet sur le nombre de malades hospitalisés ?
Alors on observe effectivement depuis la mi-juin une augmentation régulière du nombre de cas. Il y a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées, mais elle est plus faible. Elle est de l'ordre de 15% par semaine, alors que pour le nombre de cas, on est à 30% par semaine. Et ce que ça laisse entendre, c'est que vraisemblablement, les personnes qui s'infectent aujourd'hui sont plutôt des personnes jeunes. Or, on sait que les complications surviennent chez des personnes plus âgées. Il y a vraiment une différence très importante dans le risque d'être hospitalisé ou de faire des complications graves selon que vous avez, je dirais, moins de 50 ans et plus de 50 ans. Et après, ça augmente de façon très régulière entre l'âge de 50 ans et 80 ans. Donc, ça laisse entendre que aussi les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités et qui sont plus à risque de formes graves, probablement se protègent assez bien, alors que l'épidémie circule pour l'instant dans une population plus jeune.
Le virus circule davantage chez les jeunes, mais les jeunes n'ont pas fréquenté leurs aînés cet été. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de passage entre les plus jeunes et les plus âgés ?
Alors c'est ce que je vous disais quand même, hein. Il y a une légère augmentation des hospitalisations, on est bas, donc ça ne se voit pas, ouais. Les services d'hospitalisation ne sont pas encore... ils ont encore tout à fait la capacité d'accepter, donc on ne ressent pas cette tension, hein, mais je resterai prudent et je pense que avec au rythme où les choses avancent aujourd'hui, on aura à un moment ou un autre une augmentation des hospitalisations qui arrivera parce qu'il y a deux risques qui peuvent se produire. Il y en a une, qu'il y a tous les services qui doivent faire dépistage, traçage des contacts, les isolements. À partir d'un certain moment, ils ne vont plus arriver à suivre hein, parce qu'on aura trop d'infections tous les jours en France. Déjà, là, on est à 4-5 000 infections répertoriées. Mmh. Si ça continue d'augmenter, ils vont,
24 heures.
Par 24 heures, ils vont être dépassés. Et à partir de là, eh ben, le système va continuer à s'emballer. Et inévitablement, on arrivera à ce moment-là à toucher des personnes qui sont plus à risque, elles, de faire des formes graves.
En tout cas, ce n'est pas que le virus est moins dangereux, comme ça a été écrit. Le virus est le même qu'en mars.
Le virus est exactement le même qu'en mars. Hein. Il y a une mutation qui, maintenant, est bien décrite, qui d'un virus qui est devenu très dominant sur la planète. Ce virus était arrivé en mars en France et en Italie, hein, donc c'est exactement le même virus depuis le début de l'épidémie pour la France. Hein. Ce virus est probablement un peu plus contagieux et il est au moins aussi virulent que son prédécesseur, si ce n'est pas un tout petit peu plus.
Sait-on, Arnaud Fontanet, où se produisent les contaminations ? Dans quel cadre ? Est-ce que c'est en famille, dans les transports, dans des réunions festives ? On ne le sait pas aujourd'hui.
On sait trop peu. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des clusters, qui sont donc des cas groupés.
Oui,
on en a démontré à peu près, je dirais, 5 par jour en moyenne quand on était en juin. On est aujourd'hui plutôt à 30 par jour. Donc on voit bien que ça augmente. Ces clusters, c'est effectivement du milieu familial, du milieu professionnel. Mais là, je parle de 5 à 10 cas. Hein. Ce n'est pas des très gros clusters. Alors, il y a de temps en temps, dans les abattoirs, hein, très régulièrement, on retrouve encore ces clusters importants.
Ça, c'était au début de l'été.
Ouais. Voilà, et ça se voit partout dans le monde, très curieusement. Hein. Mais globalement, ça n'explique qu'une minorité des cas. Et on ne sait pas comment s'infecte la très grande majorité des personnes.
Est-ce que c'est en milieu ouvert ? Est-ce que c'est lors de rassemblements festifs ou de grandes foules, comme on a pu en voir hier soir après le match de foot entre le PSG et le Bayern ? Je me souviens que les mêmes craintes avaient été affichées après la fête de la musique, le 21 juin, c'était il y a 2 mois. Et rien ne s'était passé. Enfin, en tout cas, on n'avait pas eu de traces dans les chiffres de contamination 15 jours après.
C'est vrai qu'on n'avait pas vu, on n'a pas pu identifier un rebond suite à la fête de la musique. Il y a une progression quand même. Hein. Vous savez, ce fameux nombre de reproductions qu'on cite, hein, qui est de 1,3 actuellement. Hein. Ça veut dire que globalement, tous les 6 jours, vous rajoutez 30% de cas. C'est pas anodin. Plus les chiffres vont augmenter, plus en valeur absolue, ça représentera de personnes. Et c'est pour ça qu'on commence à être inquiet. Mais c'est vrai que, probablement, grâce aux mesures de prévention que les Français continuent quand même hein, de pratiquer. Hein. On porte le masque, on maintient une certaine distance, on se lave les mains. Il y a, et on isole les cas. Alors, peut-être pas aussi bien qu'on devrait le faire, mais tout ça finit quand même par contenir en partie le virus. Il faut aussi se souvenir que la période estivale est plutôt une bonne période parce que les gens vivent dehors et qu'effectivement, c'est plutôt en milieu confiné qu'ont lieu les transmissions. Si vous regardez ce qui se passe dans l'hémisphère sud, où c'est l'hiver, ben là, vous voyez qu'en Afrique du Sud, à Madagascar et surtout en Australie, ça a redémarré dès que les températures sont descendues en dessous de 10 degrés. Donc là, je serais inquiet.
Alors, c'était ma question suivante sur le caractère saisonnier ou non de cette maladie. Ça a beaucoup été discuté dans les premiers mois de la crise sanitaire. Mais juste avant, vous venez de parler de milieu ouvert et des protections qu'on prend en milieu ouvert. Le masque en milieu ouvert, quelle efficacité ça peut avoir on ne sait pas. Alors, on sait que le meilleur moyen de se protéger, c'est encore de garder ses distances et de se laver les mains. Le masque en milieu ouvert qui est imposé dans un très grand nombre de villes, quelle utilité ça a ?
Alors, le masque, il va être utile si vous êtes dans des zones de foule un peu dense, hein, si vous n'êtes pas en mesure de garantir que vous aurez toujours ce mètre de distance physique qui est nécessaire pour vous mettre à l'abri des postillons des autres et pour mettre les autres à l'abri de votre postillon si vous-même vous êtes en période pré-symptomatique, hein, juste avant d'avoir des symptômes. Donc, il a son utilité à ce moment-là. Après, c'est une question peut-être de qu'est-ce qui est finalement plus pratique de faire ? Est-ce que ce n'est pas simplement de porter un masque tout le temps sans se poser de questions ? Ou est-ce que c'est de se dire « Tiens, là, il n'y a pas grand monde en face de moi, j'enlève le masque. Ah, il y a des gens qui arrivent, je remets le masque avec... » toujours un petit risque dans la manipulation du masque, vous savez, de si votre masque est contaminé sur sa surface, de vous infecter les doigts et puis après de vous toucher le nez, etc. Donc, il y a des gens qui disent, bah, finalement, on ne va pas s'embêter, on met le masque tout le temps, on n'y réfléchit plus et puis ça nous apprend à ne pas mettre aussi nos mains sur notre visage.
C'est un pense-bête, quoi. Hein.
Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, franchement, quand je suis dans un endroit désert, sur une plage, en forêt, etc., je ne porte pas le masque. Et puis, quand j'arrive dans une foule un peu dense, je le mets. Bon, voilà. ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi ça sert. Hein. Le masque, ben, effectivement, en milieu ouvert, c'est 1 mètre ou 1,50 m. Les Anglais vous diront un peu plus. Hein. Qui vous protège des postillons. Et puis, quand vous êtes en milieu fermé, en revanche, il peut avoir des aérosols infectés dans la pièce, et là, le masque vous aidera.
Mais il ne faut pas fétichiser le masque, il faut se dire que c'est une mesure complémentaire, supplémentaire de toutes les autres précautions que vous avez énumérées.
Et je vous rejoins complètement là-dessus. On a un peu tendance, j'ai remarqué, sur notre façon de traiter ces questions de santé publique, on a la semaine du test, après on passe à la semaine du masque, ouais. Et puis après on fera la semaine de l'isolement. Et ça, en fait, c'est tout. Hein, c'est le package. Chaque mesure, elle a une protection partielle. Quand vous les mettez tout ensemble, là, vous arrivez à avoir un effet. Si vous n'en prenez qu'une et vous en tenez qu'à une seule, ça ne suffira pas.
Alors, je reviens à la question. Est-ce que cette maladie est saisonnière ou pas? Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit plus virulente à nouveau avec la baisse des températures?
Alors là, on n'a pas de certitude, mais mon sentiment est que c'est le cas.
Votre sentiment?
Oui, c'est-à-dire que là, c'est sur quand je mets dans la balance un petit peu toutes les observations qu'on peut avoir. D'abord, c'est un virus qui a commencé à circuler très fortement pendant la période hivernale. On a effectivement, en période estivale, fait un peu tout ce qu'il fallait pour que ça reprenne, et puis ça n'a pas vraiment repris, ça a un peu repris, mais pas beaucoup. On s'est rendu compte que dans les pays de l'hémisphère sud, eh bien, quand les températures ont baissé, là, ça a vraiment flambé. Et puis, on sait par expérience, pour les virus respiratoires, qu'ils ont un caractère saisonnier, mais qu'ils ne s'affirment pas lors de la première saison épidémique, parce que comme il n'y a pas d'immunité en population, même s'il y a une moindre circulation pendant l'été, ça suffit quand même pour circuler. Après, quand vous commencez à être aidé partiellement par l'immunité qui a été acquise en population, eh bien, le caractère saisonnier devient beaucoup plus tranché. Les étés ne suffisent plus pour faire des épidémies, et c'est pendant l'hiver que les épidémies se manifestent. Donc, je pense que sur ce premier été, le caractère saisonnier n'est pas très tranché. Si on devait apprendre à vivre avec ce virus pour plusieurs années, là, le caractère saisonnier viendra de plus en plus tranché.
Ce qui est saisonnier de façon certaine, c'est la grippe. La grippe saisonnière qui va arriver forcément, comme chaque année, avec la baisse des températures. Il faudra prendre des précautions supplémentaires, se faire vacciner d'abord.
Alors oui, je pense qu'il est important de se faire vacciner pour la grippe parce que c'est un outil qui marche bien et qu'on n'a pas envie de se retrouver à devoir gérer sur des personnes qui présentent un tableau grippal. Est-ce que c'est une grippe? Est-ce que c'est la Covid? Pour voir après, en plus, dans les hôpitaux et dans les services de réanimation, des patients avec la grippe arriver, alors qu'on risque d'être surchargé déjà avec des patients qui ont la Covid. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on se réalise qu'avec toutes les mesures de précaution qui sont prises contre la Covid, eh bien, on se rend compte qu'en tout cas dans l'hémisphère sud, le virus de la grippe circule peu cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas se protéger pour l'hiver qui vient en France, parce qu'une fois de plus, on a un vaccin qui marche, donc autant l'utiliser.
Et si un vaccin arrive contre le Covid, il faudra combiner les deux vaccins?
Ah ben, si on avait un vaccin pour la Covid et qu'on pouvait l'utiliser, bien sûr, mais là, on n'y est pas encore.
Professeur Arnaud Fontanet, vous restez avec nous. D'autres questions après une pause.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Avec le professeur Arnaud Fontanet, à une semaine de la rentrée scolaire, on sait que les enfants sont peu infectés. Est-ce que certaines écoles peuvent devenir, est-ce qu'elles risquent de devenir des foyers épidémiques?
Alors les données ont un petit peu évolué pendant l'été sur les enfants, qui reste un sujet compliqué parce que finalement, très tôt, avec le confinement, les écoles ont fermé, il y avait les vacances scolaires aussi, et on n'a pas vraiment pu savoir jusqu'à quel point ils intervenaient dans la transmission du coronavirus.
On avait des exemples étrangers quand même.
Alors, on avait quelques exemples étrangers. Ce qu'on sait maintenant, c'est que globalement, à partir de collège, lycée, les enfants sont vraisemblablement aussi susceptibles que les adultes d'être infectés et aussi contagieux qu'eux. Ce qui est moins clair, c'est ce qui se passe chez les moins de 10 ans. On avait tendance à dire qu'ils étaient un peu moins susceptibles et moins contagieux. Je pense qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils sont vraisemblablement susceptibles, mais moins contagieux. Pas parce qu'ils ont moins de virus, hein. On retrouve les mêmes charges virales chez les enfants comparées aux adultes, mais en revanche, que comme ils n'ont pas de symptômes, ils sont probablement moins contagieux. Donc ce qui va se passer avec la rentrée scolaire, c'est que bon, d'abord, on est tous conscients qu'il faut que cette rentrée scolaire se fasse. Les enfants doivent retourner à l'école, on se réalise toutes les difficultés que peuvent poser la fermeture des écoles pour les enfants et qu'il est donc important qu'ils puissent reprendre une scolarité. Ce qu'il faudra faire, c'est s'assurer qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, effectivement, le port du masque chez les plus de 11 ans, ça me paraît une mesure qui est tout à fait logique. Les gestes, laver les mains, etc., bien sûr, et c'est le moment de l'acquérir, ce type de réflexe. Et puis, je crois qu'il serait important aussi, c'est de garder les enfants groupés par classe, par exemple, pour que si à un moment des cas apparaissent, on puisse les gérer au niveau d'une classe et pas être obligé de fermer toute une école. Parce que ça va arriver. Je pense qu'il faut que les gens acceptent l'idée que à la rentrée, on va avoir des clusters dans les écoles. Ça va être inévitable. Simplement, pour les enfants eux-mêmes, le risque est très faible. On le sait, hein, ils sont pour la plupart du temps complètement asymptomatiques. Et puis, s'ils ont des signes cliniques, ils restent très modérés.
Donc, le risque, c'est pour les enseignants.
Mais le risque est pour les enseignants.
Et
les personnels.
Pour les
personnels non enseignants. Puis aussi pour les familles qui vont récupérer leur enfant le soir. Et dans ces familles, il peut y avoir des gens avec comorbidité. Donc, voilà, il faudra faire tout pour que la circulation du virus soit la moins importante dans les classes. Et ensuite, s'il y a des cas qui sont déclarés, qu'on puisse à ce moment-là les gérer au niveau de la classe et pas être obligé de fermer les écoles à chaque fois parce que ça deviendra extrêmement difficile.
Ce qui avait été fait en juin, où des écoles avaient été fermées après la détection de quelques cas dans les lycées et les universités, c'est aussi un problème.
Et alors là, c'est port du masque qui est plus facile. Et puis les mesures barrières chez les plus âgés, on peut vraiment leur demander de les respecter. Hein. Ils sont tout à fait en capacité de les comprendre. Après, ça restera toute la difficulté de sensibiliser une population plus jeune au fait que si eux-mêmes ne sont pas forcément à risque de faire des formes graves, mais il y en a quelques-uns quand même. Hein. Il y a des témoignages d'ailleurs sur des réseaux sociaux de jeunes qui ont fait des formes graves de Covid, et je pense que c'est intéressant que, parce qu'ils seront probablement beaucoup plus parlants pour des gens de la même génération, mais aussi de leur rappeler que voilà, on est sur des questions de solidarité transgénérationnelle, hein, et qui sont très évoquées quand on parle de tout ce qui s'est passé sur le climat, etc. Et bien, cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, qui pensent un peu aux personnes plus âgées qui sont autour d'eux et qui leur sont chères, parce que c'est, voilà, c'est là où le risque se présente.
L'immunité, le professeur Fontanet, et à l'inverse, le risque de réinfection, c'est aussi un sujet qui a été beaucoup discuté et débattu ces derniers mois. Est-ce qu'on a, après avoir été malade, une immunité pour longtemps, ou au moins pour plusieurs mois?
Alors, on a le recul maintenant de au moins 6 mois, hein, par rapport aux premières personnes qui ont pu être infectées en Europe et qui ont été suivies, ou un peu plus tôt pour celles qui étaient infectées en Chine. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une immunité, qu'elle décline quantitativement quand on peut la mesurer, ce qui n'empêche pas qu'elle existe probablement au point que si les personnes étaient à nouveau exposées au virus, elles seraient capables de réenclencher une production d'anticorps pour les protéger, par exemple, beaucoup plus rapidement. On n'a pas de cas de réinfection documenté aujourd'hui. Et ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont fait des formes sévères ont développé une immunité plus solide que les gens qui ont fait des formes bénignes. On pourrait se poser la question de savoir si les gens qui ont fait des simples rhumes, maux de gorge, n'auraient pas une immunité comme avec les coronavirus saisonniers, ceux qui donnent le rhume, qui se perd assez vite, tandis que ceux qui ont fait des formes plus graves, avec des pneumopathies, auraient une immunité qui durerait plus longtemps, comme on l'a vu, par exemple, avec le coronavirus du SRAS. Donc ça, ça fait partie des questions qui sont encore à l'étude. On a de plus en plus de recul et pour l'instant, on suit ça très près.
Il y a encore beaucoup d'incertitudes, non? De mystères sur cette maladie, ou ils sont en train d'être levés?
On a encore des incertitudes, on a plus de recul. Maintenant, je trouve que il est intéressant de se rendre compte qu'on comprend quand même beaucoup mieux comment elle se transmet. On a découvert quelles étaient les circonstances où on a eu des clusters, hein, et c'est ces circonstances-là qu'il faut éviter. C'est là qu'il faut faire aussi des surveillances plus attentives, hein, les EHPAD, dont on sait qu'effectivement, quand le virus s'introduit, il se répand extrêmement vite. Il y a des lieux professionnels, des abattoirs qu'il faut surveiller très près aussi. Donc tout ça, on le comprend mieux. Il y a des progrès qui ont été faits aussi sur la prise en charge des patients, hein, ce qu'on réalise pas. Mais en fait,
on les soigne mieux.
On les soigne mieux avec les anticoagulants, avec les corticothérapies. On a divisé par deux le passage de l'hospitalisation à la réanimation. Au début de l'épidémie, 30% des hospitalisés passaient en réanimation. Maintenant, c'est 15%. Et en réanimation, avec des nouvelles méthodes de ventilation, eh bien, les chances de survie ont augmenté aussi. Donc, on a quand même toute une série d'améliorations qui font que, en plus, je crois, enfin, j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année, quelques molécules qui sont aujourd'hui en cours d'essai thérapeutique vont s'avérer efficaces et vont diminuer le risque de formes graves. Je parle d'interférons, je parle de molécules anti-inflammatoires qui feront que, à cette rentrée où je sais que les gens, ils en ont marre, ils n'ont pas envie de retourner dans tout ce qu'on a vécu au printemps dernier, ils ont envie de tourner la page. Non, il y a un vrai risque, hein, qui se pose, recirculation du virus avec le retour à l'école, le retour à la vie professionnelle, au transport en commun, et puis peut-être le refroidissement qui accompagnera l'arrivée de l'hiver, qu'il faut tenir bon parce que la physionomie de cette épidémie va vraiment changer, je pense, dans les mois qui viennent, quand on aura des traitements qui éviteront les formes graves, et en 2021, quand on aura des premiers vaccins où on peut espérer que certains d'entre eux auront une efficacité au moins partielle.
Merci beaucoup, professeur Arnaud Fontanet. Je rappelle, membre du Conseil scientifique. Il existe toujours le Conseil scientifique? Il devait être dissous cet été, non?
Alors, il devait s'arrêter avec l'état d'urgence sanitaire. Il y a un amendement qui est passé pour dire qu'on continue jusqu'au 30 octobre, donc on est toujours là. Et ben, vous le savez, hein, on a dit qu'on serait content de passer la main parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes très compétentes qui nous remplaceraient avantageusement. Mais voilà, on est bon soldat et on continue en tout cas jusqu'au 30 octobre.
Merci à vous d'avoir été au micro d'Europe Midi.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, un nouveau journal. Et puis La France bouge avec Elisabeth Assayag. Bonne journée.